Vous écoutez, on lit pour vous.
Les changements climatiques aggravent les allergies. Un texte de Jean-Benoît Legault, La Presse canadienne, paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. Les changements climatiques ont un impact direct sur les allergies, que ce soit en aggravant les symptômes des patients ou encore en allongeant la période pendant laquelle ils sont affectés, a confirmé un expert du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Et ça ne fait que commencer, a prévenu le docteur Jean-Nicolas Boursicot, un spécialiste des allergies et du système immunitaire. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de patients au courant des prochaines années, et ces patients-là vont être de plus en plus malades, a-t-il dit. Avec un recul de 10 ou 20 ans, a-t-il ajouté, il est possible de constater que les patients sont non seulement plus malades, à savoir que la sévérité de leurs symptômes est plus grande, mais aussi qu'ils sont malades plus longtemps. Donc, sur le terrain, il y a un effet indéniable. Le pollen, notamment, celui de l'herbe à poux, est si petit que le vent peut le transporter sur des centaines de kilomètres, a rappelé le docteur Boursicot. Un plant d'herbe à poux qui relâche du pollen à Windsor, en Ontario, pourrait donc potentiellement incommoder quelqu'un à Rivière-du-Loup. On sait aussi que le réchauffement climatique augmente l'incidence des feux de forêt, qui relâchent dans l'atmosphère des milliers et des milliers de tonnes de particules capables de provoquer des réactions allergiques. On voit surtout une différence au niveau de l'asthme, a dit le docteur Boursicot, avec qui la presse canadienne a discuté en marge du Jour de la Terre. Des asthmatiques qui contrôlaient autrement bien leurs conditions avec leurs pompes viennent soudainement demander de l'aide, a-t-il confié, et disent aux médecins ne pas savoir si la détérioration de leur état est attribuable au pollen, aux feux de forêt ou à la pollution en général. Est-ce que c'est une conséquence des changements climatiques? A demandé le docteur Boursicot. Les changements climatiques ne se manifestent pas du jour au lendemain, mais au fil des ans. On voit que les gens sont plus malades et ils sont malades plus longtemps. Tempête australienne. La BBC britannique rappelle récemment que la région de Melbourne, en Australie, a été frappée le 21 novembre 2016 par un orage qui a coûté la vie à 10 personnes et vu le nombre d'admissions à l'hôpital pour des symptômes d'asthme être multiplié par 10. La cause? La tempête avait aspiré des milliards de particules de pollen qui s'étaient désintégrées dans les nuages avant de retomber sur Terre et d'être respirés par les humains. En plus des décès et des admissions, les urgences ont vu 8 fois plus de visites pour des problèmes respiratoires qu'en temps normal, a précisé la BBC. Les experts ont mis du temps à comprendre ce qui s'était passé, avant de finalement réaliser que l'orage en était responsable. En pulvérisant les particules de pollen dans ces nuages, la tempête a libéré des protéines en si grande quantité qu'elles ont provoqué des réactions allergiques chez plusieurs personnes, y compris chez des gens qui n'étaient pas autrement asthmatiques. De tels orages ont été rapportés à travers la planète, y compris au Canada. Les effets du changement climatique sur le moment de la libération du pollen et sur sa concentration ont un impact négatif sur la santé et les systèmes de soins de santé, a écrit en 2014 dans le journal JAMA Network un chercheur australien qui s'est intéressé à l'orage de Melbourne. Ces effets du changement climatique sur les maladies respiratoires allergiques devraient se poursuivre, prévient l'étude, qui prédit que le nombre de personnes allergiques au pollen de l'herbe à poux devrait doubler en Europe, passant de 33 millions à 77 millions de personnes d'ici le milieu du 21e siècle. Cela est dû, selon les auteurs, à la fois au changement climatique qui entraîne des niveaux de pollen plus élevés et à la propagation de cette espèce végétale envahissante, le premier facteur étant responsable de 66% de l'augmentation de la prévalence. À une certaine époque, a rappelé le docteur Boursicot, on attirait les touristes américains vers la région de Tadoussac en leur faisant valoir qu'on n'y retrouvait pratiquement pas d'herbe à poux et qu'ils pourraient donc respirer en paix. Mais maintenant, on rencontre de l'herbe à poux en Gaspésie ou au Saguenay, a-t-il souligné. Le réchauffement du climat signifie que la saison du pollen commence plus tôt et se termine plus tard, prolongeant d'autant l'exposition de ceux qui y sont allergiques. On calcule, par exemple, que cette saison s'est allongée de 25 jours à Winnipeg, au Manitoba, entre 1995 et 2015. Une étude publiée en 2022 par Nature Communications avertissait que, sans réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre, la saison du pollen commencera 40 jours plus tôt et se conclura 15 jours plus tard à la fin du siècle. Des concentrations plus élevées de CO2 dans l'atmosphère stimuleraient aussi certaines plantes à produire jusqu'à 50% plus de pollen. La pollution n'est pas une conséquence des changements climatiques, a rappelé en terminant le docteur Boursicot, mais plutôt une cause des changements climatiques. Et puis, avec tout ça, on comprend bien que les irritants auxquels on soumet notre système immunitaire rentrent dans les bronches, rentrent dans les poumons, fragilisent les muqueuses respiratoires, et ça fait en sorte que les pollens rendent plus facilement et qu'on développe de plus en plus d'allergies, a-t-il résumé. C'était « Les changements climatiques aggravent les allergies », un texte de Jean-Benoît Legault, La Presse canadienne, paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.
Dix questions à poser. Achat de propriété. Un texte d'André Laroche, paru le 26 avril 2025 dans La Presse. Quelles sont les questions le plus souvent négligées par les acheteurs lorsqu'ils visitent une maison? Nous avons interrogé un courtier immobilier, un inspecteur en bâtiment et une spécialiste en assurance pour connaître les oublis les plus fréquents. 1. La maison est-elle en santé? Francis Cournoyer, courtier immobilier chez RE/MAX. Les gens vont souvent omettre de lire la déclaration du vendeur. S'ils la lisaient, ils pourraient demander dès la première visite d'avoir des précisions, par exemple, sur une infiltration d'eau ou une fissure dans les fondations, mais ils se concentrent plutôt sur les espaces, la lumière et le voisinage. Et c'est seulement à l'étape de l'inspection qu'ils seront surpris d'apprendre l'existence de problèmes techniques. 2. Est-ce que la maison est classée patrimoniale? Valérie Romano, courtière en assurance chez Courtier Multiplus, très peu de compagnies acceptent d'assurer ces maisons car elles présentent des risques accrus de sinistres. Elles coûtent aussi plus cher à reconstruire en raison des dispositions légales qui obligent la reproduction exacte d'éléments architecturaux. De plus, en cas de perte totale, des municipalités interdisent souvent leur reconstruction au même endroit. 3. Y a-t-il un affaissement du sol? Frédéric Greffard, président de la société d'inspection Inspector, c'est une question pertinente à poser, car elle permet de soupçonner, par exemple, la présence d'ocre ferreux. Le risque est particulièrement élevé quand les fondations de la maison se situent sous le niveau de la nappe phréatique. Si l'ocre bloque le drain français, l'eau s'écoule mal et l'humidité s'installe dans le sous-sol ou dans la maison tout entière. 4. Peut-on agrandir la maison? Francis Cournoyer. Pendant une visite, des gens vont déjà envisager d'agrandir la maison, d'ajouter une terrasse sur le toit ou de bâtir un garage. Mais ces modifications ne sont peut-être pas permises par la municipalité. C'est important d'inclure une clause de vérification dans la promesse d'achat pour s'assurer d'avoir le droit de construire ce que l'on projette. Je suggère même d'avoir une validation écrite par la municipalité avant d'acheter. 5. En quoi sont faits la plomberie et le câblage électrique? Valérie Romano. La majorité des compagnies vont refuser d'assurer de vieilles maisons où l'on retrouve encore du câblage en aluminium ou de la plomberie en acier galvanisé. Le fil d'aluminium présente trop de risques d'incendie, alors que la rouille qui se forme dans les tuyaux en acier galvanisé réduit la pression d'eau. La plomberie en polybutylène, poly-B, pose aussi problème, car elle se détériore avec le chlore contenu dans l'eau. Il faut aussi vérifier le panneau électrique. Certaines compagnies vont refuser les vieux panneaux à fusibles. 6. Quelle est la cote de qualité du constructeur? Frédéric Greffort. L'organisme garanti de construction résidentielle fait des inspections sur les chantiers pour attribuer une cote qualité entre AA et D aux entreprises accréditées par la garantie. Un acheteur de maison neuve peut faire cette vérification-là avant de procéder à la signature. 7. Est-ce que la maison se trouve dans une zone inondable? Valérie Romano. C'est une question importante, car un assureur peut décider de ne pas couvrir les dommages causés par un débordement de cours d'eau ou peut-être même aussi ceux provoqués par les refoulements d'égouts. C'est pourquoi il est important de demander si la maison a subi des sinistres antérieurs, car des secteurs ne sont pas encore répertoriés comme zones inondables sur les cartes des assureurs. 8. La copropriété est-elle bien administrée? Francis Cournoyer. La loi 16 sur les copropriétés change beaucoup de choses. Les syndicats doivent désormais se doter d'un carnet d'entretien et commander des études de fonds de prévoyance. Cela peut avoir un gros impact financier si une copropriété n'est pas à jour. Si les charges de copropriété passent de 300 $ à 450 $ par mois, ça risque de faire un bon trou dans le budget d'un propriétaire. Souvent, c'est rendu devant le notaire que les gens s'en rendent compte, mais leur promesse d'achat est déjà acceptée et l'inspection est faite. 9. Est-ce que l'ancien propriétaire a modifié le condo? Valérie Romano. Les assurances d'un syndicat de copropriété vont couvrir la valeur des matériaux d'origine de tous les condos. Mais les améliorations apportées à un condo, comme le remplacement d'un plancher de linoléum par du marbre, seront couvertes par la police d'assurance habitation de son propriétaire. Très peu de gens le savent. 10. Le prix négocié est-il juste? Francis Cournoyer. Plusieurs acheteurs ne cherchent pas de comparatif pour savoir s'ils paient un prix juste. Ils se donnent un budget et s'ils aiment une maison, ils vont l'acheter s'ils sont capables de se la payer. Mais ont-ils payé trop cher pour le secteur? Qu'est-ce qui justifie le prix demandé? Moi, à titre de représentant du vendeur, la loi m'interdit de les aider à ce chapitre. C'était 10 questions à poser, achat de propriété, un texte d'André Laroche, paru le 26 avril 2025 dans La Presse.
Quatre questions pour comprendre. Un texte de Didier Bert, paru le 1er mai 2025 dans La Presse. L'industrie de l'aluminium est une place forte du Québec. Mais quels sont les principaux usages de ce métal? Qui d'autre le fabrique? Quels sont les grands consommateurs mondiaux d'aluminium? Et savez-vous combien coûte une tonne d'aluminium? Petit tour d'horizon de la planète aluminium. À quoi sert l'aluminium? L'aluminium sert avant tout à se déplacer. En 2023, le secteur de l'automobile et des transports utilisait 29 % de l'aluminium produit dans le monde, selon Ressources naturelles Canada. sa légèreté et sa durabilité permettent de réduire le poids des véhicules, ce qui réduit le besoin en carburant et les émissions de gaz à effet de serre. L'industrie de la construction, 22%, fait aussi largement appel aux produits en aluminium pour le revêtement extérieur ou les structures de bâtiments. L'industrie de l'emballage, 16%, fabrique des canettes de boissons et du papier en aluminium. Les industries électriques et de l'électronique, 12%, ainsi que la fabrication de machinerie et d'équipements, 8%, sont les autres principaux utilisateurs du métal gris. Qui produit l'aluminium? Le Québec est un important producteur d'aluminium. Ses 8 alumineries produisent 90% de la production totale canadienne. Avec 3,3 millions de tonnes d'aluminium primaire, le Canada est le 4e producteur mondial, derrière la Chine, 41 millions de tonnes, l'Inde, 4,1 millions de tonnes, et la Russie, 3,8 millions de tonnes, mais devant les Émirats arabes unis, 2,7 millions de tonnes, selon Ressources naturelles Canada. Les 2,9 millions de tonnes d'aluminium produites au Québec chaque année génèrent 38 000 emplois dans cette industrie, d'après Alu-Québec, la grappe industrielle de l'aluminium. 80% de ces emplois se répartissent dans les 1734 entreprises transformatrices dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 11,6 milliards de dollars. L'hydroélectricité permet au Canada de produire l'aluminium ayant l'empreinte carbone la plus faible parmi les principaux producteurs mondiaux. Qui consomme l'aluminium? Le premier consommateur mondial d'aluminium primaire est la Chine. L'Empire du Milieu a englouti 58,4% de la production mondiale en 2023, d'après Ressources naturelles Canada. Et la demande chinoise continue d'augmenter année après année. La deuxième zone économique en matière de gourmandise pour l'aluminium est l'Europe, 13,3%, qui précède l'Asie, 11,4%, à l'exception de la Chine. Et l'Amérique du Nord? Elle est la 4e région économique, 9,9%, dans la consommation du métal gris. L'Amérique du Nord consomme 2 fois plus d'aluminium que la production annuelle canadienne. Au total, ce sont 69,9 millions de tonnes d'aluminium primaire qui ont été utilisées dans le monde en 2023, en hausse de 1,3% par rapport à l'année précédente. Combien coûte l'aluminium? Autour de 3325 $ la tonne, le prix de l'aluminium primaire se situe au même niveau qu'au printemps 2021, bien qu'il ait connu un pic à plus de 4848 $ au début de l'année 2022. À l'époque, le déclenchement de la guerre en Ukraine et le ralentissement de la production en Chine avait fait flamber la valeur du métal gris. Au cours des 6 dernières années, le prix de l'aluminium est demeuré bien plus stable que le prix de l'acier, qui a connu des variations importantes de 2021 à 2023, indique Alu-Québec. Recyclable à l'infini, l'aluminium utilisé sous sa forme secondaire consomme 95% moins d'énergie et à un coût moindre que la production d'aluminium primaire. C'était 4 questions pour comprendre, un texte de Didier Bert, paru le 1er mai 2025 dans la presse.
Éloge de la première partie. Un texte de Dominique Tardif paru le 12 mai 2025 dans La Presse. Contrairement à Patrick Lagacé, dont deux récentes chroniques ont beaucoup fait réagir le milieu de la musique, notre journaliste Dominique Tardif ne peut imaginer un monde sans première partie. Cher Patrick, on se connaît un peu, pas beaucoup, mais assez pour que tu te doutes que tes récentes chroniques m'ont, cherche un verbe poli, interpellé. J'ai beau être un intime de l'irritabilité, je ne m'étais jamais imaginé qu'une première partie puisse être la source de telles contrariétés. C'est que, comprends-tu, moi, j'aime les premières parties. J'aime les premières parties parce que je leur dois tant de petits moments d'éternité, de débuts de nuits magiques, auxquels je refuse de renoncer. J'aime les premières parties parce que dans la grande balance des inconvénients, mes émerveillements finissent toujours par peser plus lourd que mon impatience. Mes maux d'os ou la conviction que j'aurais mieux fait de rester dans mon lit, endormi sous les draps. Allez, je risque une joke d'humoriste des années 1990. J'aime les premières parties comme j'aime les préliminaires, parce que dans les deux cas, j'y apprends parfois des choses que je ne savais pas de moi. Je serais prêt à me taper 100 spectacles de Jacques Villeneuve si, en échange d'un tel sacrifice, je pouvais remonter le temps et vivre pour une deuxième fois la joie de découvrir Patrick Watson au Grand Théâtre de Québec, en première partie de Chili Gonzalez, quelques mois avant le lancement de son premier grand disque, Close to Paradise. Je repense souvent à la « Cœur de pirate » maladroite, vue en première partie de Benjamin Biolay au Club Soda, puis, quelques mois plus tard, déjà beaucoup moins maladroite, dans un bar de Sherbrooke, juste avant le groupe rock garage de mes amis, les Bébés Requins. Une histoire que leur chanteur, désormais un éminent prof d'université, finit toujours par raconter après quelques bières. Souvenir précieux d'être ébaubi devant les louanges en première partie de Bernhardi au Cercle, à Québec, alors qu'il semblait à peine émergé de l'adolescence et que ses tunes étaient aussi généreuses en promesses qu'en attendrissantes maladresses. Mais si j'apprécie les premières parties, ce n'est pas juste parce que, grâce à elles, j'entends parfois aujourd'hui les inconnus dont le nom sera demain sur toutes les marquises. Ce n'est pas non plus parce qu'il ne m'arrive jamais d'avoir l'impression de gaspiller 30 minutes de ma vie de jeune papa où les 30 minutes de vraie liberté sont aussi rares que les nuits de pur sommeil réparateur. Des premières parties qui s'éternisent comme un mauvais polar, des premières parties par rapport, des premières parties durant lesquelles il me démange de sortir mon téléphone et d'aller m'obstiner avec le premier tata sur X, je les ai toutes vues. Je te dois bien la vérité. J'ai même déjà passé toute une première partie à jaser avec mes chums. En fait, c'est précisément parce que ma vie en est une de contraintes temporelles nombreuses que je refuse de devenir celui qui peste contre les premières parties. Je ne vais pas voir un spectacle comme j'achète un frigo ou un divan. Dans un magasin de meubles, je suis un client. Au MTELUS à Montréal, au Pantoum à Québec ou au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda, je suis un spectateur. Un mot qui suppose un abandon que j'embrasse avec bonheur. Dans une salle de spectacle, je remets mes oreilles, mon cœur et, éventuellement, le reste de mon corps à ceux et celles que je suis venu entendre et à ceux et celles qu'ils ont cru bon d'inviter. Dans une salle de spectacle, je me soustrais à l'emprise du temps, ou du moins, je fais tout pour m'offrir cette illusion. Je sais que tu aimes les images, Pat. Alors, en voici une bien cateau. J'entre dans une salle de spectacle comme j'entre à l'église. Et pendant une, deux, trois heures, je place ma vie entre les mains de cette instance supérieure qu'on appelle la musique. Et comme à l'église, il m'arrive de prendre un verre, ce qui n'est pas la plus souffrante des manières de tuer le temps. Je t'épargne la nomenclature des autres raisons pour lesquelles les premières parties sont essentielles et dont plusieurs musiciens ont dressé la liste dans les répliques qui t'ont été adressées, qu'il s'agisse de la professionnalisation de la relève ou de la santé économique des salles, indissociable dans bien des cas des ventes de bière. Mais si j'aime à ce point les premières parties, c'est surtout parce que j'adore les papillons des débuts. Des papillons qui ne prennent pas leur envol toutes les fois, mais qui me chatouillent les tympans assez souvent pour que, lorsque je mets les pieds dans une salle, je me dise immanquablement « C'est peut-être ce soir que je découvrirai mon nouvel artiste préféré. » Un sentiment auquel je ne connais aucun autre équivalent que celui de rencontrer sa nouvelle personne préférée. Excuse les grands mots, mais que veux-tu? Mon rapport à la musique est de l'ordre du sacré. Un show est le rare portail me permettant de goûter à ce que les gens de foi appellent la transcendance. Il y a peu d'aussi beaux miracles que d'être devant un band dont j'ignorais tout il y a quelques minutes et sans qui je ne saurais maintenant plus comment envisager ma vie. C'était « Éloge de la première partie », un texte de Dominique Tardif paru le 12 mai 2025 dans La Presse.